Bonjour à tous, c'est un sujet tabou dont on n'aime pas forcément parler en plein mois d'août, la saison traditionnelle des mariages. Les obsèques sont devenues un commerce très rentable, contrats pièges, factures abusives. En mai dernier, Philippe Rétien avait enquêté sur les dérives du marché de la mort. Et puis nous recevrons Jean-Christophe Notin. Il publie une contre-enquête sur l'ancien patron du renseignement français, Alexandre de Maranges, ainsi qu'un livre d'entretien avec d'anciens agents des services secrets français qui parlent pour la première fois.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Rien ne ressemble plus à un enterrement qu'à un autre enterrement. Et pourtant celui-ci a quelque chose de spécial. On ne voit pas un homme, uniquement des femmes. Rien que des femmes. Oui, décidément, je crois que Bertrand aurait apprécié le spectacle de son propre enterrement.
Voilà, vous l'avez peut-être reconnu, la voix de Brigitte Fossé dans le film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Il aurait apprécié le spectacle de son propre enterrement. L'homme qui aimait les femmes, c'est l'acteur Charles Denner dans le film de Truffaut, un grand classique. Voilà donc pour les mystères et la beauté du cinéma. Mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment la même histoire. Philippe Rétien, les funérailles sont devenues un commerce comme les autres.
Oui, l'enterrement et la crémation, c'est un marché qui pèse aujourd'hui 2,5 milliards d'euros pour 590 000 décès en France. Et on sait déjà que dans 30 ans, il y en aura 750 000.
Oui, avec le vieillissement de la population, voilà pour les chiffres. Mais quels sont les prix pratiqués sur ce marché alors?
D'abord, évidemment, il y a le prix du cercueil obligatoire. Les prix vont de 450 euros en aggloméré à plus de 3000 euros en bois de chêne massif.
Le cercueil obligatoire et puis il y a tout ce qu'on vous propose en plus.
Un bouquet de services qui va jusqu'à proposer de disperser vos cendres en pleine mer ou ailleurs, comme l'explique l'ancien directeur des services funéraires de Paris, François Michaud-Nérard.
Il y a un certain nombre d'organismes qui proposent des dispersions en mer, il y en a même qui ont imaginé des dispersions en montgolfière et dernier avatar, il y avait des entreprises qui proposaient d'encapsuler une partie des cendres pour les envoyer dans l'espace.
Envoyer les cendres du défunt dans l'espace, on n'y avait pas pensé. Et il y a encore plus loufoque, hein.
Oui, c'est interdit en France, mais si vous passez la frontière, vous pouvez transformer les cendres de votre bien-aimé en diamants. Écoutez à nouveau François Michaud-Nérard.
Le diamant, c'est du carbone pur, donc il suffit d'extraire le carbone des cendres, de le mettre sous très forte pression, très haute température, on obtient des diamants. Vous pouvez avoir la bru avec sa belle-mère au doigt.
Ah oui, donc une épouse qui aurait immortalisé sa belle-mère à son doigt, bon, c'est pas un goût formidable. On va redescendre un peu sur terre, Philippe. Et pour ceux qui ne peuvent pas se payer une bague, il y a aussi des options gratuites.
Oui, comme par exemple s'offrir le corbillard de Johnny Hallyday. Thierry Céauto est gérant de pompes funèbres à Vitry-le-François et il m'a montré son bijou.
La limousine que tout le monde a vue aux obsèques de Johnny Hallyday, c'est la même. Voilà. Quand on lève les rideaux, le catafalque où justement repose le cercueil, tout est transparent, aussi bien le dessus que sur le côté, comme la voiture de Johnny Hallyday. Et nous avons décidé d'acheter ce véhicule-là et de le mettre gracieusement, donc pour tout le monde, puisque voilà, on ne fera pas d'argent avec ça, c'est notre image de marque à travers les enterrements.
Oui, c'est notre image de marque à travers les enterrements, dit ce gérant de pompes funèbres. Et à travers ces exemples qui peuvent sembler folkloriques, on a bien compris qu'il y avait une bataille commerciale pour attirer les familles dans un moment où on se sent particulièrement vulnérable. Et cette bataille, Philippe, on la trouve aussi sur Internet.
Avec beaucoup de sites qui proposent des applis payantes comme le coffre-fort numérique, où on range les codes et tous les papiers du défunt, ou encore la sépulture numérique. Pas besoin d'aller fleurir la tombe, vous allez sur un site pour revoir le défunt ou entendre sa voix. Soyez très vigilant, conseille le rédacteur en chef de Que Choisir, Arnaud de Blauve.
Le e-commerce s'est réellement emparé du marché de la mort, avec quelquefois des prestations qui peuvent paraître fantaisistes. Ne pas hésiter à appeler le 3939. Sur le site de l'UFC Que Choisir, il y a aussi tout un guide qui est consultable pour bien préparer ses obsèques. C'est d'autant plus nécessaire que vous êtes en situation d'urgence et de vulnérabilité. On aura tendance à vous prendre pour une bonne poire. Soyons honnêtes, les entreprises de pompes funèbres, même les plus sérieux et même les plus attentionnées, leur mission, c'est quand même d'essayer de vous imposer la facture la plus lourde possible.
Et on essaye de vous imposer la facture la plus lourde possible, dit ce journaliste de Que Choisir. Et cette dérive, elle ne date pas d'hier.
Oui, un homme en a été le témoin dans son entreprise dans les années 80. Il s'appelle Olivier Géhin. Il est aujourd'hui journaliste au magazine funéraire, le journal de la profession. Et voilà ce qu'il a dénoncé à l'époque.
J'ai constaté des choses qui étaient absolument épouvantables et que je ne pouvais pas laisser faire en l'état. C'était de l'escroquerie aux familles. Des factures qui étaient alourdies. Vous savez, il y a une règle. Vous facturez ce que vous fournissez ce que vous facturez. Donc si vous sortez de ça, c'est pas possible.
Et la justice, à l'époque, lui a donné raison. Des soins mortuaires avaient été facturés, mais pas réalisés. Et aujourd'hui, en toute légalité, les tarifs des embellisseurs de corps, les thanatopracteurs, font toujours gonfler la facture.
Donc voilà pour certaines pratiques parfois contestables. Venons-en maintenant à ceux qui tiennent ce grand marché, Philippe. Qui sont les acteurs principaux?
Trois poids lourds. Le numéro 1, c'est OGF PFG. 125 000 obsèques par an, 20% du marché. C'est un conglomérat avec des magasins, de la vente en ligne, des crématoriums, mais aussi des usines de cercueils et des forêts.
Des forêts?
Oui. Dans les Vosges et dans les Landes, OGF fabrique 140 000 cercueils sur le sol français.
Et les deux autres poids lourds du secteur, alors?
Il y a Le Choix Funéraire, un groupe, et ensuite Roc Éclair, un autre groupe créé il y a 20 ans avec l'idée de devenir la grande surface du funéraire. Et à côté de ces trois gros, il y a des centaines d'enseignes encore indépendantes qui tentent de survivre.
Donc si je comprends bien, c'est un marché qui s'est concentré. Et comment on est arrivé à cette situation?
Au départ, les pompes funèbres, c'est un service public communal sous la responsabilité du maire qui va progressivement déléguer ce service à des partenaires privés. Au début des années 80, l'industrie se faufile dans les pompes funèbres. Un géant, la Lyonnaise des Eaux, devient actionnaire du numéro 1 du marché, les pompes funèbres générales PFG. C'est le début de la commercialisation des obsèques, constate le journaliste Olivier Géhin.
À partir de là, les pompes funèbres s'insèrent dans un bouquet de services offerts aux communes qui comprennent les transports, qui comprennent l'eau, l'assainissement, qui comprennent les pompes funèbres et tous les autres services qu'on peut négocier avec une commune. La Lyonnaise des Eaux devient un petit peu le cheval de Troie dans la commune pour pouvoir continuer à rester le champion des communes pour les pompes funèbres.
Oui, des grands groupes comme la Lyonnaise des Eaux se veulent donc les champions des communes pour les pompes funèbres, avec quelques idées derrière la tête. Et d'ailleurs, il va y avoir des dérives.
Oui, d'abord parce que les prix s'envolent. Les préfets ne contrôlent plus les cahiers des charges des pompes funèbres. Des maires de grandes villes vont favoriser certaines sociétés, avec des soupçons de corruption et de financement illégal des partis. Finalement, au début des années 90, le gouvernement Bérégovois ouvre les pompes funèbres à la concurrence.
Et c'est à partir de ce moment-là que la finance investit le marché de la mort.
Oui, l'argent coule à flot. Les banques, les assurances, les mutuelles et les fonds d'investissement, même étrangers, vont lancer de nouveaux produits avec les pompes funèbres pour financer les obsèques. Il faut savoir que le numéro 1 français d'aujourd'hui, OGF PFG, est détenu à 75% par un fonds d'investissement canadien, Ontario Teachers. Rien de plus normal pour Jean Ruellan, le directeur marketing du groupe.
Ils ont plutôt besoin d'entreprises qui vont servir des rentes. Voilà, et le commerce funéraire, en cela, apporte une certaine visibilité. Et on est plutôt serein. Nous, on a plutôt un profil sécurisant. Et en tout cas, on a énormément de moyens. Ils ne sont pas là, je vous le garantis, hein, pour profiter de l'entreprise. Et on a énormément de moyens pour notre développement.
Et quand je fais remarquer aux représentants d'OGF qu'on n'enterre pas vraiment français, puisque des dividendes partent au Canada, ils se fâchent tout rouge.
Pas chez nous, monsieur, pas chez nous. Nous produisons 140 000 cercueils par an. En France, nous sommes attachés au tissu industriel français. Nous achetons dans des filières sylvicoles éco-certifiées, monsieur. Notre cercueil nous revient plus cher et c'est un vrai choix d'entreprise que de produire en France. 100% du chêne vient de Franche-Comté. 100% du pain vient des Landes, monsieur.
Bon, on a compris le message. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce commerce est vraiment devenu une rente pour certains fonds d'investissement. Et la conséquence de tout ça, Philippe, c'est un bouleversement du paysage.
Oui, une concentration avec des milliers de boutiques absorbées dans un même réseau, avec des économies d'échelle et des gains de productivité à la clé, comme l'explique Olivier Géhin.
On est en ce moment en train de vivre une sorte de monopole des pompes funèbres. Les pompes funèbres se font racheter comme la gare de l'Est ou autre chose sur le Monopoly. Hein. La concentration actuelle du marché qui s'opère depuis les années 2000 se solde effectivement sur des envolées des prix des entreprises et par voie de conséquence, envolées des prix sur la facture aux familles.
Une envolée des prix, dit ce spécialiste des pompes funèbres. Donc la concurrence, elle ne fait pas baisser les prix ?
Eh bien oui, la moyenne pour les obsèques aujourd'hui, c'est plus de 4000 euros. Les prix ont augmenté 2,5 fois plus vite que l'inflation, alors que la concurrence était censée faire baisser les prix. Et ça, ça désole le sénateur qui a écrit toutes les lois sur la fin officielle du monopole communal, Jean-Pierre Sueur.
J'ai fait la loi qui a mis fin au monopole des pompes funèbres en 1993. On a mis en place une concurrence. Et au bout d'un moment, on est venu me dire, mais monsieur Sueur, le monopole que vous avez fait sortir par la porte, il revient par la fenêtre. Une dérive, c'est clair.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment le secteur des obsèques a été dérégulé, comment il attire désormais la finance. Voyons justement maintenant, Philippe Reltien, quels sont ces nouveaux produits financiers en lien avec la mort?
C'est le marché de la prévoyance obsèque. Le futur défunt ne veut plus être à la charge de ses proches et donc il souscrit un contrat obsèque auprès d'une banque ou d'une assurance.
Et ces contrats obsèques, ça concerne beaucoup de monde ?
Oui, plus de 5 millions de Français ont déjà signé ce type de contrat. On cotise chaque mois pour financer ces obsèques.
Alors d'accord, on a compris le principe, mais quel est le problème avec ces contrats ?
On signe beaucoup trop vite, sans comprendre forcément ce à quoi on s'engage. Voici par exemple comment une veuve de 88 ans s'est faite piéger. Elle signe un contrat obsèque au Crédit Agricole. Elle doit cotiser 47 euros par mois jusqu'à sa mort. On lui promet 3000 euros pour ses obsèques. Mais les médecins lui donnent encore 10 ans à vivre. Alors elle refait ses calculs. Elle devra cotiser au moins 8000 euros pour obtenir un capital de 3000 euros qui ne bougera pas. C'est trop. Elle veut arrêter. Impossible. Sauf à perdre les 2/3 de son argent. Une véritable arnaque, déplore sa fille au micro de Solène Cressant.
On lui redonnait que 1100 euros. Ils appellent ça durée viagère. Elle a largement dépassé la somme des 3000 euros qui lui seront versés au moment du décès. Elle n'aura pas plus, ça c'est sûr. C'est à fond perdu, quoi. Elle paye tous les mois à fond perdu. Ça me révolte. Je ne comprends pas qu'on puisse continuer à placer des contrats aussi abusifs. On se sent volé.
On se sent volé, dit la fille de cette retraitée, et parfois même, on peut perdre tout l'argent cotisé.
En effet, il y a toute une série de clauses qui empêchent de toucher l'argent. Si par exemple, vous mourrez trop jeune, avant la date prévue dans le contrat, ou si vous mourrez dans un accident de la route, ou sur un terrain de guerre, il faut vraiment étudier son contrat à la loupe, conseille Pascal Barlet de Que Choisir.
Il peut arriver qu'on ne récupère pas les cotisations, dans le sens où c'est un investissement à perte. Et c'est l'assureur qui gagne les cotisations en question. Il faut lire le contrat dans les petites lignes et le professionnel ne vous informera pas forcément oralement de tous ces détails.
Il faut lire le contrat dans ces petites lignes, mais ça ne s'arrête pas là, Philippe. Ces fameux contrats obsèques dont on vient de parler, c'est souvent un moyen d'orienter la clientèle.
Vers l'un des trois grands poids lourds du funéraire, alors que la loi l'interdit. Il s'agit, vous l'avez compris, de tout faire pour conserver le capital qui finance ces obsèques. Prenons le cas bien réel d'un client de l'assureur Aviva. Il souscrit un contrat obsèque sans préciser quelle entreprise doit l'enterrer. C'est son droit et il peut changer d'avis à tout moment. Son assureur va le relancer. Il lui donne une carte avec un numéro vert gratuit. Et derrière ce numéro, il y a, devinez qui ? Le numéro 1 français des pompes funèbres, OGF, PFG. Et bien sûr, l'idée, c'est que la famille du futur défunt appelle ce numéro-là et pas un autre, comme nous l'explique Ophélie Chauffer, gérante de pompes funèbres dans la Marne.
Dans la panique, la famille, elle trouve la carte, elle voit un numéro, elle appelle ce numéro. En fait, derrière, c'est un plateau d'assistance, le plateau d'assistance du groupe OGF, qui va lui dire d'aller dans l'une de ses agences. Pensons, oui, que c'est le papa décédé qui avait choisi, alors que non, le papa a juste été voir son assureur Aviva pour prévoir le financement de ses obsèques. Joint à ce contrat, il y avait une lettre et une carte souscripteur sur laquelle figure un numéro 0800 qui est en fait la plateforme du groupe OGF. pour moi, c'est clairement du détournement de clientèle.
Ce genre de pratique s'apparente à du détournement de clientèle, dit cette gérante indépendante. Et que répond OGF ?
Eh bien, OGF dément toute pratique illégale. J'ai montré cette carte précisément avec le numéro vert d'OGF au directeur marketing du groupe, Jean Ruelland. Écoutez sa réaction.
Je ne vois pas où est le soupçon. Je ne vois pas.
C'est bien une plateforme, c'est bien la vôtre.
Oui, c'est une plateforme qui va informer la famille, qui va lui proposer d'entrer en contact avec un opérateur funéraire pour l'aider dans ses moments difficiles. Elle est où l'entente ? Elle n'existe pas.
Comment vous expliquez cette carte souscripteur qui vous cite en premier ?
Mais c'est une information, monsieur.
C'est une publicité, ça n'est pas une information.
Une information.
Ça, c'est plus que de l'influence, là. C'est même pas marqué publicité dessus.
C'est fini, ça. On est en 2018, c'est fini.
Bon, une simple information ou une publicité déguisée, on vous laisse juger. Tout ça, c'est fini, nous dit de toute façon le directeur marketing d'OGF. Et qu'en dit le législateur, Philippe ?
Eh bien, la question a été posée au sénateur Jean-Pierre Sueur, le grand spécialiste du sujet, et voici sa réponse.
Je considère qu'il s'agit d'une manière de capter une clientèle. Et je veux dire ici à votre antenne qu'un grand nombre de contrats obsèques sont contraires à la loi. Et je dénonce ce qui est le détournement du contrat obsèque pour en faire simplement une opération financière. Chacun peut saisir les tribunaux compétents pour dénoncer les contrats obsèques, tout simplement.
Un grand nombre de contrats obsèques contraires à la loi, chacun peut saisir les tribunaux, dit Jean-Pierre Sueur, et certains ont justement l'intention de le faire.
Oui, les derniers opérateurs indépendants du réseau Funeris comptent dénoncer ce qu'ils considèrent comme une entente entre les banques, les assurances et les grands groupes du funéraire. Écoutez le gérant Thierry Seoto qui mène la fronde.
On va porter plainte pour détournement de clientèle, pour concurrence déloyale. Parce que on a de plus en plus d'exemples de familles qui se plaignent, justement. Donc, les familles, elles se demandent qu'est-ce que c'est que tout ce cirque. Alors, les gens, ils choisissent plus leur opérateur funéraire, finalement. Ils vont là où on leur dit. Ne les écoutez pas. Allez où vous souhaitez. C'est vous qui choisissez votre opérateur funéraire.
C'est vous qui choisissez votre opérateur funéraire et ce n'est pas lui qui vous choisit, ça c'est la loi. Mais ce n'est pas tout Philippe, vous avez découvert une autre pratique illégale.
Oui, des commissions cachées, rebaptisées frais de dossier dans la facture finale. Quand un grand groupe funéraire doit faire appel à un réseau concurrent pour enterrer quelqu'un parce qu'il ne couvre pas la ville en question, il fait parfois payer une commission de 10% sur le contrat qu'il va céder à l'entreprise locale. De l'argent en moins pour les familles, s'indigne Ophélie Chauffer du réseau Funeris.
10% de 4000 euros, c'est 400 euros sur un coup de fil. Ça explique en partie l'inflation, évidemment. Les 10%-là, bah, il faut bien les payer. Donc ce sera au détriment forcément de nous, exécutants, et le capital disponible pour la famille est forcément réduit. On peut considérer ça comme du racket. Ces exemples-là sont quotidiens. Nous les dénonçons ouvertement. Parce que c'est puni sévèrement, donc là c'est du pénal. Hein. Donc 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros.
Cela ressemble à du racket, dit cette opératrice funéraire, et vous avez des exemples ?
Oui, concret. J'ai pu consulter le contrat de quelqu'un qu'on va appeler Madame S. Elle a conclu un contrat obsèque avec la Banque Postale. Le partenaire de cette banque pour tout ce qui est funéraire s'appelle le choix funéraire. Sauf que Madame S veut être enterrée par quelqu'un d'autre, qu'elle connaît bien dans son village. Et donc, le choix funéraire fait payer 10% de commission à l'enseigne locale pour lui céder un capital de 3 000 euros.
D'accord, et la Banque Postale, qu'est-ce qu'elle répond ?
Elle ne dément pas ce cas précis et elle dit condamner ce type de pratique. Nous avons fait lire sa réponse écrite par une journaliste.
D'un point de vue éthique, nous dénonçons les pratiques évoquées si elles étaient avérées. En aucun cas, la famille du défunt ne doit être facturée en supplément pour les prestations choisies par contrat. Si tel était le cas, nous serions aux côtés de notre partenaire, le choix funéraire, pour que la famille soit remboursée de la somme exigée par le prestataire indélicat.
Oui, donc ce qu'on entend, c'est que la Banque Postale s'engage à rembourser d'éventuelles commissions maquillées en frais de dossier et facturées aux familles. On a tous bien noté. Ce qui ressort de tout ça, Philippe, quand même, c'est que les 5 millions de souscripteurs de contrats obsèques ne sont pas toujours bien conseillés.
Et souvent, ils ignorent qu'ils peuvent à tout moment choisir une autre société de pompes funèbres sans aucun frais, comme le rappelle le sénateur Jean-Pierre Sueur.
Si la personne qui a souscrit ce contrat change de société, de lieu, de mode d'obsèque et de mandataire, cela ne doit pas entraîner de frais complémentaires autres que des frais administratifs minimes. De toute façon, je n'ai pas souscrit de contrat obsèque pour moi-même et pour mon épouse non plus, parce que je considère finalement que c'est très bien que les enfants financent les obsèques des parents. C'est un devoir de solidarité, et si les parents veulent aider les enfants, ils peuvent tout à fait leur léguer une somme d'argent. Et c'est pas la peine de faire un contrat obsèque, on n'est pas obligé de le faire.
On est d'autant moins obligé de le faire que désormais la loi autorise un prélèvement jusqu'à 5000 euros sur le compte du défunt pour financer ses obsèques.
Et ce qu'il faut dire aussi, Philippe, pour être tout à fait complet, c'est que les parlementaires, eux, cotisent à un régime spécial.
Oui, un sénateur a droit à une allocation funéraire à sa mort ou à celle de son conjoint, égale à 6 mois de pension de retraite, le double des députés. Pour les députés, c'est désormais limité à 2350 euros. Avant, ça pouvait aller jusqu'à 18 000 euros. Les sénateurs vont bientôt leur emboîter le pas.
France Inter, secret d'info.
Alors, on a vu comment on pouvait se faire arnaquer par des contrats d'assurance obsèques. On a vu comment la facture pouvait artificiellement gonfler pour les familles. Voyons maintenant, Philippe Rétien, comment ça se passe pour les personnes les plus précaires.
Alors, on oublie souvent que 4 millions de Français vivent avec moins de 690 euros par mois et qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs obsèques. Et il a fallu 2 canicules en 2003 et en 2006, avec des centaines de morts délaissés, pour qu'on s'en aperçoive, regrette Huguette Boissonnat d'ATD Quart Monde.
On se retrouve avec des personnes qui n'ont plus d'aide, qu'on ne peut pas enterrer. Et donc là, l'effet de masse nous a sauté à la figure. Et là, on s'est rendu compte que c'était grave. On ne va pas chercher son mort, parce que si vous venez chercher le mort, vous payez l'enterrement. Et c'était pour ça qu'on avait tous ces morts qui étaient dans les hôpitaux, dans les chambres froides, et on les a gardés longtemps. Et on a dû prendre des mesures législatives pour forcer les communes à reprendre leur rôle d'enterrement des indigents.
C'est terrible, hein, ce témoignage des proches qui ne viennent pas récupérer les corps pour ne pas payer l'enterrement. On a dû forcer des communes à enterrer les indigents, dit cette militante d'ATD Quart Monde. Pourquoi ?
Parce qu'il y avait un vide juridique à l'époque. Ni la sécurité sociale, ni la CMU, la couverture maladie universelle, ne couvraient les frais d'obsèques des plus pauvres. Ce sont donc les communes qui ont été appelées à la rescousse. Mais c'est un service minimum. Et bien souvent, ça crée des tensions quand ces communes refusent de prendre en charge la totalité de la facture. Écoutez encore Huguette Boissonnat.
Les services funéraires des municipalités ont une notion assez vague de ce qui est indigent. Et c'est encore plus grave parce que là, par exemple, on a un bébé à l'hôpital de Dijon. La famille vit à Langres. Comme il n'y a plus d'hôpital à Langres, le bébé qui était très gravement malade a été emmené à Dijon au CHU. Il est décédé là-bas. Et Langres dit, nous, on veut bien l'enterrer comme indigent, mais on ne peut pas payer le rapatriement du corps. Le bébé reste au frigo. On fait quoi ?
Et je vous pose la question, Philippe, on fait quoi ?
Eh bien, on fait des dons. Huguette Boissonnat, qui est aussi dentiste de profession, fait la quête auprès de ses clients. Et pour bien mesurer la situation, elle a aussi fait la tournée des magasins de pompes funèbres. Une amie à elle, Marie-France, s'est faite passer pour une mourante en chaise roulante pour savoir combien coûterait son propre enterrement. Écoutez le résultat.
Donc on est allé enterrer Marie-France. Comme elle est assez forte, il y avait encore des problèmes de largeur, de cercueil, enfin on a tout entendu, hein. Avec le poids, il fallait peut-être plusieurs personnes pour porter en plus. Enfin,
vous voulez dire 6 poignées au lieu de 4.
Voilà, 6 poignées, plus de porteurs, etc. Ça allait de 2000, à peu près 2000 euros jusqu'à 3006. Mais en dehors de cette expérience, j'ai accompagné des personnes qui sont en grande pauvreté, qui ont enterré leurs proches pour plus de 8000 euros. On leur a tout fait prendre.
On leur a tout fait prendre alors qu'ils n'ont pas les moyens, c'est un cercle vicieux.
Oui, et c'est pour casser cette spirale de la précarité qu'ATD Quart Monde, en Lorraine, a mis en place avec un assureur local et le groupe Roc Éclair, un contrat obsèque à 4 euros par mois, le moins cher de France. Il garantit un enterrement ou une crémation digne, comme l'explique le directeur de ce programme à Nancy, Frédéric Siliberti.
On a fait une prestation à 1080 euros, donc nous c'était vraiment pas à but lucratif. C'est vraiment pour qu'il n'y ait plus de problème, si vous voulez. Quand une personne décède dans un foyer sur Nancy, que les communes ne se posent pas la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut faire le transport de corps? Chaque personne, si vous voulez, qui rentre dans nos agences peut bénéficier de ce contrat.
Et je précise que ça existe aussi à Paris. Ça s'appelle le convoi social avec le collectif Les Morts de la Rue.
Oui, on a bien compris que les classes sociales, finalement, eh bien, on les retrouve aussi au cimetière.
Entre ceux qui ont les moyens de prévoir et les autres. Pour les plus fortunés, c'est un peu, si vous voulez, comme s'il fallait réussir sa mort comme on a réussi sa vie, regrette toutefois l'ancien directeur des services funéraires de la ville de Paris, François Michaud-Nérard.
Donner sépulture, c'est un devoir sacré. Plus maintenant, majoritairement, les gens pensent que c'est au futur mort de s'occuper de sa propre mort. C'est au vieux de s'occuper de sa propre mort. Et quand le futur mort s'occupe de ses propres obsèques, il ne réagit pas pour les besoins de ceux qui restent, il met en scène sa propre mort. Et quand il se préoccupe également du devenir de son corps après la mort pour le deuil, bah il vient interférer avec le processus de deuil de ceux qui suivent. S'il y a une chose qu'il faut retenir quand même, c'est que les obsèques, c'est fait pour les vivants.
Les obsèques, c'est pour les vivants. On va garder cette phrase en tête. Merci Philippe Reltien pour cette enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons vous ouvrir les portes des services secrets français.
Fall in the dark. Spend my summer riding high on the whiplash. Head back, blowing through the leaves. Growing up a preacher was all you ever dreamed. I got the holy one. I got the holy one. I feel the fever grip. I needed a close. I'm at the field, baby. Not quite, but nearing it. Can't feel the fever yet. I'm saving up my daily measurement. I'm at the grocery store. I'm buying eggs and toast. I'm looking at you and not where I walk. I broke my nose and facing door. Don't let the fever get you. I got already lost my soul in the seventh heaven, looking out on all the living. Spend my summer riding high on the roof ledge. Head back, blowing through the leaves. Growing up a preacher was always just a dream. All you ever needed were lines you could believe. Sang them to me sweetly, only just a dream. Kick a marvelous dog, let me get to know you. Well, I don't know nothing, but I'm quick picking up. I think I could get you in a minute or two. Yeah, if I could get a minute for five at the limit, I think I might make you smile at the dinner. Kick me under the table, I think that's my end. And I think I came for that, what comes with it. Let it simmer, let it simmer. Simmer down, please. I got the holy rum, I got the holy rum. I felt the fever grip me when I needed it most. Thank the Lord, I'm at the fever pitch now. I'm at the fever pitch. Not quite, but nearly. I'm in it, man.
Fever pitch entre harmonie vocale, folk et rock alternatif, le son si particulier d'un groupe venu de Caroline du Nord, Rainbow Kitten Surprise, extrait de leur dernier album, How to Friend Love Freefall.
Secret d'info, Benoît Colomba, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Jean-Christophe Notin. Vous publiez deux ouvrages. D'abord une contre-enquête minutieuse sur l'ancien patron de l'espionnage français dans les années 70, Alexandre de Maranche, le maître du secret aux éditions Talendier. Et puis un livre d'entretien qui vient de sortir en édition de poche, Les guerriers de l'ombre. Alors ces guerriers de l'ombre, ce sont d'anciens agents clandestins de la DGSE, les services secrets extérieurs français, 12 hommes et une femme, des civils et des militaires qui parlent pour la première fois. Et ce qu'il vous raconte, Jean-Christophe Notin, c'est un quotidien très éloigné de l'image de James Bond.
Oui, c'est même, ça a été un des objectifs du livre et de leur objectif à eux, c'est-à-dire de montrer la vérité de ce travail qui est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus pragmatique et à la fois beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer.
D'ailleurs, un de ces anciens agents vous dit que James Bond, en fait, c'est un très mauvais agent parce qu'il donne sa véritable identité, il ne prépare jamais ses missions et puis il casse tout le temps le matériel.
Et oui, le but du clandestin est de se noyer dans la population. Donc à partir du moment où vous tuez, entre guillemets, où vous faites exploser, où vous donnez votre nom, évidemment, vous vous démarquez. Donc ce n'est pas un bon agent.
Alors ceux que vous avez rencontrés, il faut le préciser, ce ne sont pas des agents comme les autres. Ils appartiennent à un service ultra secret, dont vous révélez d'ailleurs le nom dans votre livre.
Alors, on va dire que la plupart appartiennent au service Mission, qui est un des services de la DGSE, côté du service Action. Mais pas tous, parce que la clandestinité est une, je dirais, une marque de fabrique, une manière de procéder au travail de renseignement. Donc certains appartiennent aussi au service Action, d'autres à ce qu'on appelle la direction du renseignement, mais vous pouvez avoir des clandestins à la direction technique également. C'est un mode opératoire, la clandestinité. C'est pas la marque intrinsèque d'un service en particulier.
Donc l'objectif de ce service, vous l'avez dit, c'est obtenir du renseignement de la manière la plus discrète possible.
Et en général dans les zones les plus périlleuses. La vocation première était d'intervenir dans les zones où il n'y avait pas d'ambassade française, où il n'y a pas la couverture diplomatique possible. Donc ce sont des gens qui agissent sous légende et sous couverture.
La légende, c'est une fausse identité en fait. Pour recueillir du renseignement sans en avoir l'air, on doit se construire une nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle la légende, même s'il n'y a pas de bureau des légendes, comme dans la fameuse série télé.
Non, le bureau des légendes est une invention romanesque. Le bureau des légendes réel est dispatché entre différents services au sein de la DGSE. La légende, c'est vraiment s'inventer une nouvelle vie. Là, c'est là où ça devient compliqué. Ça peut être à la fois sous une fausse identité, mais à la fois sous sa véritable identité. Il y a des espions très très connus qui ont opéré sous leur véritable identité toute leur vie, dont le général Rondeau, par exemple.
Et en plus de cette légende, il faut aussi avoir une couverture, c'est-à-dire un métier et tout ce qui va autour.
Donc la légende, on s'invente une nouvelle identité. La couverture, on s'invente une nouvelle activité professionnelle. Donc évidemment, là c'est vraiment la marque. C'est évidemment des gens qui ne diront jamais « j'appartiens à la DGSE » ou même « j'appartiens à un quelconque service de l'État ».
Voilà, et là, il ne s'agit pas de se prendre les pieds dans le tapis. Il faut vraiment être dans sa nouvelle identité, dans sa nouvelle vie.
Et il faut, comme ils disent, tenir la couverture. Donc évidemment, ne jamais révéler ce fil à la patte avec la DGSE.
Alors, pour intégrer cette élite du renseignement, il faut passer toute une série d'épreuves. On n'entre pas comme ça dans ce service.
Non, évidemment, comme ce sont des métiers très compliqués, très périlleux pour les services de l'État, il faut des gens qui ont un profil très particulier. Donc il y a des tests à la fois psychotechniques, on essaie de sentir un peu le caractère de la personne, et des tests sur le terrain de mise en pratique, donc vraiment des tests d'évaluation, de réaction à différentes situations proposées par les recruteurs.
Certains racontent par exemple le test du verre d'eau. C'est quoi?
Alors, c'est le test le plus connu, puisqu'il a été popularisé dans un film américain. C'est la personne est déposée, par exemple, au pied d'un immeuble. On lui dit, tu as à peu près 15 minutes pour te signaler à la telle fenêtre du troisième étage avec un verre d'eau à la main. Et à la personne de se débrouiller pour le faire le plus rapidement possible et le mieux.
Et alors, un autre grand classique, c'est aussi l'exercice de diversion.
Oui, chaque exercice a après une vocation à être appliqué sur le terrain. Donc là, le but, c'est par exemple d'entrer dans un restaurant, d'attirer l'attention de toute l'assistance pour qu'une autre équipe en parallèle puisse aller ou récupérer un renseignement ou récupérer un objet. Et donc là, pareil, on demande au candidat, tu vas dans tel restaurant, à toi de te débrouiller pour que dans 10 minutes, tu saisisses l'attention de tout le monde et qu'il n'est Dieu plus que pour toi. Il faut absolument proposer quelque chose. Alors ça peut rater, c'est pas pour autant rédhibitoire. Le but, c'est une fois de plus de proposer quelque chose, de montrer qu'on peut s'adapter à n'importe quelle situation.
Alors, cette légende, parfois, elle pénètre au plus profond de l'aide de ses agents. Un de ses anciens agents vous dit que parfois, on rêve avec son identité fictive.
Oui, oui, ça a été même une des répliques les plus stupéfiantes qui nous est donnée, parce que ça montre l'impact de cette prise de personnalité. Il faut bien imaginer que ce sont des gens donc, qui prennent une nouvelle identité, une nouvelle couverture, mais qui la vivent en permanence, 24 heures sur 24, et des semaines durant. Parfois des mois, jamais des années, contrairement à ce que dit le Bureau des légendes, mais qu'ils peuvent reproduire d'année en année. Donc évidemment, ça a un impact forcément sur le psychique, d'où cette projection dans les rêves.
Alors l'objectif, c'est également de ramener, on l'a dit, du renseignement pour anticiper notamment les grands changements géopolitiques. Et c'est pas toujours évident. Dans votre livre sur l'ancien patron du renseignement, Alexandre de Maranche, qui est resté en poste de 1970 à 1980, vous dites que son anticommunisme l'a parfois un peu aveuglé et que, eh bien, par exemple, il n'a pas vu venir la révolution islamique en Iran.
Oui, alors oui, typiquement Maranche a fait ce qu'il ne fallait pas faire dans le travail des services, c'est-à-dire arriver avec des a priori et plaquer des idéaux politiques, idéologiques. Typiquement dans la crise iranienne, il n'imagine de révolution que manipulée par Moscou, alors que c'est une révolution vraiment fondamentaliste chiite. Et donc il ne voit pas du tout la montée du chiisme, la montée du fondamentalisme, et ça sera également vrai en Afghanistan, ça sera vrai en Afrique. Donc c'est plaquer une idéologie sur des situations, et donc ne pas les comprendre, et donc ne pas les anticiper.
Et dans le cas des ex-agents que vous avez rencontrés, l'Afghanistan, justement, occupe une place centrale, donc là on est avant le 11 septembre 2001, les clandestins français ont des oreilles du côté des talibans comme du côté du commandant Massoud, par exemple.
Ah, ça a été, en ce qui me concerne en tout cas, une des plus belles pages de la clandestinité française, qui n'a pas eu d'équivalent à l'international, même la CIA n'a pas fait ça. Donc la DGSE a réussi à placer des pions à elle dans à peu près tous les camps. Il y avait dans les camps talibans, dans le camp de Massoud, également dans le camp royal qu'on oublie un petit peu. Mais donc c'est très très fort d'avoir des... Et il y a même eu sur un champ de bataille, vous avez eu donc Massoud qui a affronté des talibans et vous aviez les deux agents de la DGSE qui étaient sur chaque côté du front. Donc il aurait pu se voir à la jumelle.
Mais le commandant Massoud qui a été assassiné quelques jours avant le 11 septembre.
Le 9 septembre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces agents évoquent les répercussions de leur travail sur leur vie privée. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être un clandestin.
Hein. C'est forcément beaucoup de pression sur vos épaules. Donc vous vous éclipsez en quelque sorte de votre foyer pendant X mois. Le foyer continue à vivre. Et donc l'agent, quand il revient chez lui, il revient avec la pression du travail. Il ne peut absolument rien dire de ce qu'il a vu et fait. Et vous avez le foyer, la femme, les enfants qui ont vécu leur vie en parallèle avec leurs soucis en parallèle. Donc ils vont les répercuter sur l'agent qui revient en mission. Donc ça lui fait une double pression, sans moyen de décompression en quelque sorte. Ce qui fait que c'est un métier qu'ils ne peuvent pas faire très très longtemps en fait.
Il y a aussi la question de savoir si on peut avoir une relation intime avec quelqu'un pendant sa mission. Un ex-agent vous dit, moi ça ne me choque pas du moment que c'est au service de la mission.
C'est ça.
Là aussi, il y a plusieurs points de vue. Hein.
C'est même un chef de service. La règle dans les services est de ne pas avoir de relation intime. Parce qu'il y a risque de compromission. Évidemment, on peut imaginer un service qui va mettre dans les pattes de l'agent un homme ou une femme pour essayer de l'approcher, et ça a pu se produire. Et donc le chef de service en question, il dit non, moi c'était un risque que je pouvais accepter, à condition qu'une fois de plus, ça puisse renforcer la couverture et la qualité de l'agent sur place.
Et c'est pas évident non plus d'en sortir, de sortir de ce service. L'un d'entre eux dit qu'on peut avoir un peu le syndrome de Superman qui du jour au lendemain doit aller acheter son journal, et certains ont du mal à s'en remettre psychologiquement.
Ce qui est fascinant, c'est que c'est universel. J'ai lu très récemment le dernier ouvrage de John le Carré. Il décrit exactement la même chose de la part des agents du MI6.
Dire que agents anglais.
Anglais, qui vivent ensemble, qui vivent dans une famille, avec un fort sentiment de supériorité, qui est lié à la connaissance de choses que le grand public n'a pas. Et donc, quand ils en sortent, ça crée un espèce de vide absolu. Ils reviennent au vrai monde, à la vraie réalité, et qui est forcément plus prosaïque. Et donc, ça peut avoir des phénomènes, là aussi, assez conséquents sur leur vie personnelle.
Il y a une phrase dans votre livre qui résume bien les choses sur cette collecte du renseignement parfois périlleuse. On est une flottille de chalutiers, on va chercher le poisson, on le dépose sur le quai et ensuite il y a des gens qui sont là pour traiter le poisson, dit un ex-agent. Est-ce qu'on a assez de poissons aujourd'hui pour bien anticiper les futures menaces?
Alors, comment dire, la tendance serait de dire oui, il faut des clandestins dans le monde entier. Maintenant, comme vous l'avez bien compris, c'est un métier très compliqué. C'est une prise de risque absolue, donc on peut pas non plus multiplier les risques. Ça demande beaucoup de techniques, de moyens, donc ça peut pas être multiplié à l'envi. Donc je dirais que c'est le service à peu près adapté à un service comme la DGSE et un pays surtout comme la France. Après, une fois de plus, comme c'est un petit service, ils sont obligés de faire des choix. Et là, évidemment, des choix, il peut y également y avoir des erreurs.
C'est ce qui fait la spécificité de la France. Finalement, il y a assez peu de pays avec des services clandestins comme celui-ci.
Ah oui, c'est vraiment une des pattes françaises et qui remonte pour le coup à Marenche, puisque Marenche, quand il prend le SDEC, donc l'ancêtre de la DGSE en 70, la clandestinité est au point mort. Donc il relance vraiment le service clandestin et les clandestins actuels bénéficient de certaines choses qui ont été mises en place du temps de Marenche.
Avec même des techniques qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est ce qu'on apprend aussi dans votre livre.
Ah, c'est un savoir-faire, mais j'allais dire même universel. On le retrouve donc au MI6, on le retrouve à la CIA, on le retrouve au Mossad. Ce sont des ressorts qui sont vraiment universels, et donc ils s'apprennent d'officiers en officier traitant, avec des ressorts qu'on retrouve partout.
Et on demande aux agents d'éviter les réseaux sociaux. Finalement, on en revient aux bonnes vieilles méthodes et éviter les messageries électroniques et tout ce qui est numérique.
Il faut éviter de laisser son nom, son adresse, son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. C'est donner un peu trop de facilité au service adverse quand même.
Merci Jean-Christophe Notin. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages. Le maître du secret, Alexandre de Marenche, légende des services secrets français aux éditions Talendier, et Les guerriers de l'ombre qui vient de ressortir en poche aux éditions Point. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur, et à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouvez Brigitte Patient. Regardez voir. Excellent dimanche à tous.